Nous allons donc passer à la séance des questions-réponses. Je vais vous demander une fois de plus de fermer ou de mettre sous silencieux vos téléphones afin que nous puissions opérer cette partie de la conférence de presse en toute quiétude. N'oubliez pas que les collègues de l'équipe pays développement et humanitaire sont là éventuellement pour des questions relevant de leur domaine. Et donc tout de suite, nous commençons avec le fond de la salle. D'habitude, nous commençons au début, mais je crois que une fois n'est pas coutume, on va essayer d'aller au fond de la salle pour prendre la première main qui se lève et ensuite on va passer à la gauche et ensuite à Goma. Présentez-vous, donnez-nous le nom de votre organe et puis votre question. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Hakim Kombo, Canal Kinshasa Télévision. À l'absence de Martin Kobler, j'espère que le représentant, le porte-parole peut aussi, par exemple, répondre. Ce matin, on a suivi sur un média international les porte-paroles de la République du Congo qui réagissaient aux propos de l'envoyé spécial d'ici, selon lesquels les expulsions ont été émaillées des graves violations des droits de l'homme. Alors, il a estimé que ces expulsions ont été faites dans les normes internationales. Est-ce que vous, Monisco, vous partagez cet avis? Et puis, la brigade, donc les FRDC, affrontent l'ADF, les rebelles ougandais, il y a 3 jours. Alors, on sent que en ligne des fronts, il n'y a que les FRDC qui agissent. Quel est réellement le rôle de la brigade? Parce que l'opinion commence à s'inquiéter si elle était tombée dans une léthargie. Voilà.
Merci pour la question. Je crois que vous avez dû recevoir le communiqué de presse conjoint d'ailleurs, qui a été distribué cette semaine par la MONUSCO, un communiqué qui était co-signé par Madame Zeynab Awa Bangoura, qui est représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions des violences commises en période de conflit, et par Martin Kobler. Et ce communiqué est très clair sur les violations subies par les personnes expulsées donc de la République du Congo. Et vous savez que la semaine dernière, M. Martin Kobler était lui-même au camp de transit de Maluku, où il a discuté avec les personnes qui étaient dans ce camp et qui étaient expulsées, qui venaient et donc de la République du Congo. Et il a entendu de ça, j'allais dire de lui-même, les explications, les témoignages donnés par... dans ce camp, il y avait à peu près 3000 personnes encore sur place. Et donc, il a entendu lui-même les exactions d'enfants noyés, jetés dans le fleuve, de personnes, de filles qui ont été violentées, qui ont accouché sur les rives même du fleuve avant d'embarquer, etc., etc. Et ce faisant, le représentant spécial ainsi que la représentante spéciale chargée des questions de violence en conflit se sont élevés contre de tels actes et ont dit c'est vrai que dans une certaine mesure les expulsions au niveau des pays ont un caractère national, mais cela dit, cela doit se faire au regard du respect du droit international. Et c'est ce que le communiqué et les deux représentants spéciaux du secrétaire général ont dit dans leur communiqué. Et je crois que c'est très clair. Et d'ailleurs, nous avons, dans ce communiqué, interpellé les autorités du Congo à initier une enquête pour faire la lumière sur les auteurs qui ont commis donc ces violations, afin qu'ils soient traduits devant la justice, car cela, vous savez, ces responsabilités d'abus sont intolérables et ne sont pas justifiées. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur le premier volet de votre question. Et sur la question des ADF, je vais me tourner vers donc le major Kikere Panfil.
Bon, par rapport à la situation des FADC dans la lutte et dans la traque des ADF, dit que la brigade d'intervention actuellement ne fait rien. Il faut noter que dans la traque des ADF, nous saluons la détermination des FADC qui actuellement sont en train de repousser les ADF dans leur dernier retranchement. Ils les ont délogés de Médine avec le soutien de la MONUSCO. Il faut noter que actuellement nous avons des positions au nord, à Chabi, à Idohou, pour bloquer les ADF dans leur remontée dans la province orientale. Également, le soutien apporté au FADC se passe également dans la logistique. Nous avons un soutien logistique très fort en direction des FADC. Nous avons un soutien dans la planification. Nous avons un soutien, nous sommes auprès d'eux. Également, il faut noter que la semaine qui vient d'écouler, le force commandeur adjoint était à Médine, était à Bénin, où il a rencontré les autorités des FADC sur place, où ils ont discuté, ils ont planifié, où ils ont abordé un certain nombre de points que je ne peux pas aborder ici, parce que ça rentre dans le côté opérationnel. Donc, dit que la brigade ne fait rien, non. La brigade est là, la brigade continue à soutenir les FADC, la brigade continue à travailler pour la neutralisation des groupes armés et pour la protection des populations civiles. C'est ce que je peux dire.
Merci. Nous restons toujours au fond de la salle où nous allons prendre du côté gauche là une deuxième question, une question avant donc de peut-être voir du côté de Goma si nous avons des questions. Mais je vois que la salle à Goma est déjà pleine. Donc donnez-nous quelques minutes avant que... Oui, il y a une main juste ici sur ma gauche. Question, présentez-vous, donnez-nous le nom de votre organe et puis ensuite posez la question.
C'est Honoré Mbenga de l'agence presse associée APIA. Ma question est destinée au major porte-parole intérimaire militaire. Et je me pose un peu la question concernant LRA. Les activités de LRA ont duré fort longtemps en province orientale. Mais on constate que ce groupe armé est entré en RDC sans l'autorisation des autorités de la RDC. En revanche, on voit également que le gouvernement ougandais reste indifférent. Qu'en pensez-vous? Parce que je vois là la violation flagrante de la souveraineté de la RDC.
Bon, du côté militaire, la question par rapport à la souveraineté de la RDC, je ne vais pas aborder ça. Je vais rester strictement sur le côté opérationnel. Vous ne pouvez pas dire que les éléments de LRA ne sont pas traqués par les forces en présence, c'est-à-dire les forces de la MONUSCO et les forces de FADC. Parce que des opérations conjointes sont menées à la frontière. Et également, actuellement, avec la situation qui prévaut du côté de la République centrafricaine et au Sud-Soudan, il y a des contacts entre les missions de l'ONU ici et les missions de l'ONU au Sud-Soudan, et également en coordination avec le gouvernement ougandais et d'autres autorités à travers la présence des forces américaines. La présence des forces américaines, cette présence est aussi signalée. Et c'est une synergie parce que c'est une action, c'est des éléments qui opèrent dans plusieurs pays à la fois. Donc c'est un problème qui est abordé de façon globale, dont les opérations sont planifiées de façon globale. Et vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui que le LRA est aussi actif qu'il était auparavant. C'est ce que je peux dire.
Merci, merci. Il faut, juste pour apporter quelques éclairages, il faut dire que les groupes armés en général ne demandent pas la permission des États avant d'opérer, ils opèrent. Bon, vous avez dit ils sont ici sans l'autorisation du gouvernement. Un groupe armé, généralement, ne demande pas l'autorisation avant d'opérer. Cela dit, comme l'a dit le major, c'est vrai qu'il y a des actions conjointes, il faut le dire, entre la force même africaine, parce qu'il y a une force africaine qui opère contre la LRA, conjointement avec les contingents américains et la MONUSCO. On est en train de traquer, et c'est vrai que la LRA aujourd'hui en RDC ne représente pas ce qu'elle était il y a quelques années. Mais cela dit, il y a toujours des exactions, et conjointement avec les autres forces présentes dans cette région de la province orientale, nous les ciblons, nous les attaquons conformément au mandat donc de la MONUSCO qui est de neutraliser l'ensemble de ces groupes armés. Vous savez que dans la dernière résolution 2147, il est clairement dit que à la fois la LRA, les FDLR et les autres groupes armés doivent être neutralisés. C'est notre mission, je crois que nous sommes engagés à fond dedans et nous allons l'accomplir. Direction maintenant Goma, où nous allons prendre deux questions avant de revenir ici donc à Kinshasa. Goma, la parole est à vous.
La MONUSCO affirme que le processus électoral doit respecter la constitution, le droit et la liberté des citoyens. Or, la CENI vient d'annoncer que tous ceux qui sont devenus majeurs après 2011 ne pourront pas participer aux prochaines élections locales et municipales. La question est de savoir, est-ce que la MONUSCO va-t-elle financer des opérations discriminatoires envers des millions de jeunes congolais? Merci.
Financer des opérations discriminatoires contre de jeunes Congolais. Il faut dire que, une fois de plus, se basant sur la résolution 2147 exactement, La mission de la MONUSCO est très claire. La mission de la MONUSCO est d'apporter un soutien logistique à l'exécution des élections, au déroulement des élections en RDC. Et ce faisant, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies ici en RDC a déjà engagé des discussions tant au niveau donc du bureau de la CENI qu'avec l'ensemble des partis politiques pour voir dans quelle mesure cette action ou ce soutien de la MONUSCO peut se manifester concrètement en faveur de l'organisation de ces élections. Donc pour ce qui s'agit des questions internes, qui vote pas, cela revient, cela est du ressort de l'autorité nationale, gouvernementale, politique. Et je crois qu'à ce niveau, cette question peut se régler. Et vous avez entendu M. Martin Kobler lui-même le dire, il est aussi favorable et disposé à porter des bons offices. Au cas où son soutien à ce niveau des bons offices sera demandé, je crois qu'il sera disposé à le donner dans la mesure où, de façon informelle, il a déjà d'ailleurs rencontré pas mal de partis politiques, une fois de plus, à la fois du gouvernement que tant que de l'opposition, pour commencer à discuter d'un certain nombre de questions. Voilà ce que l'on pouvait dire. La MONUSCO est là pour remplir ce rôle dans le cadre de la mission confiée à lui par le Conseil de sécurité, et nous allons continuer à faire de façon vigilante, mais de façon professionnelle, ces différentes activités que nous ont données, ces différents mandats que nous ont donné donc, que nous a donné donc le Conseil de sécurité. Nous restons une fois de plus à Goma pour une autre question.
Merci, Toubé Oundi de la RTNC. À la veille de la célébration de la journée des casques bleus, y a-t-il des statistiques exactes du nombre des casques bleus déployés en RDC? Combien sont morts sur le chemin de la paix? Et que répondez-vous, Charles, à ces femmes du Nord Kivu qui pensent que ramener les militaires de l'Ouest vers l'Est serait conduit vers la balkanisation de la RDC par le redéploiement de la MONUSCO?
Merci pour ces questions. Bon, au niveau des chiffres, hein, vous avez, si vous allez sur le site de la MONUSCO, les chiffres sont clairs. Hein, on a à peu près 19 000 et quelques membres de la MONUSCO, dont les trois quarts, ou les, j'allais dire, les 9/10 sont composés de militaires. Donc les chiffres sont clairs. Il n'est pas question réellement de redéployer les militaires de l'Ouest vers l'Est, car vous savez une fois de plus que la force de la MONUSCO le dit clairement, 90 à 95% de la force militaire de la MONUSCO est déjà à l'Est du pays. Donc l'Ouest, on n'a que, j'allais dire, ce qu'on appelle les FPU, donc les militaires spécialisés dans la protection de la population qui sont présents là. C'est vrai qu'un certain nombre de ces contingents FPU sont déployés à l'Est, mais le gros des troupes de la MONUSCO est déjà à l'Ouest. Hein. Donc vous avez entendu dans le compte-rendu que j'ai fait tout à l'heure, à la fois lors du voyage de M. Moustapha Soumaré à Matadi que de voyage de M. Kobler au Bandundu, il a été dit qu'il y aura une présence à la fois des militaires et des policiers, surtout des policiers dans les différentes antennes que nous allons constituer pour aider, c'est vrai, la supervision des activités là-bas et pour aussi alerter, si besoin est, de l'évolution de la situation pour qu'une réponse adéquate puisse être donnée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les différents volets de votre question, mais je crois, rassurez-vous, que l'Ouest n'est pas complètement dégarni et nous ne participons pas en aucune façon à une quelconque balkanisation. Monsieur Martin Kobler l'a dit ici très clair, le siège de la MONUSCO reste au quartier général ici à Kinshasa. Les différents services spécialisés de la MONUSCO ont toujours des représentants ici qui travaillent en liaison avec le gouvernement et en liaison avec les autres agences des Nations Unies. Donc pour nous c'est clair, le mandat de la MONUSCO nous demande de renforcer notre présence là où il y a beaucoup plus de besoins, et ce besoin est pour l'instant à l'Est. Donc nous renforçons donc notre présence là-bas pour vraiment effectuer dans les plus brefs délais le mandat qui nous a été confié par le Conseil de sécurité. Nous revenons avec votre permission à Kinshasa. Nous allons prendre une question juste à ma gauche ici.
Merci Mariam Boya pour Télé7. Bien que ce n'est pas d'actualité, mais quand même, j'aimerais la poser au porte-parole militaire. Pourquoi est-ce que vous venez tantôt de dire que la situation sécuritaire au Katanga est imprévisible? Et quelle est la raison ou quelles sont les raisons qui ont milité pour que la MONUSCO enlève ou déplace ses troupes égyptiennes du Katanga? Merci.
Bon, je vous remercie pour la question. Il faut noter que le déploiement des forces spéciales égyptiennes à Poueto répondait à un besoin précis, c'est qu'il y avait une situation alarmante qui se passait dans la région de Poueto. Les forces égyptiennes ont été déployées, le travail a été plus ou moins fait, et dans le cadre d'un autre redéploiement, les forces égyptiennes devraient rejoindre une autre position. Il faut aussi noter que dans la région de Poueto, la menace a sensiblement diminué, et les FADC ont redéployé également plusieurs autres forces dans la région. Actuellement, la menace se trouve beaucoup plus au sud de Manono, où nous avons déjà des troupes prépositionnées, et où également nous sommes en train de travailler pour un redéploiement dans cette zone. C'est ce que je peux vous dire par rapport à ça.
Merci. Une question sur la droite. Je vois... On va prendre une dame, ensuite un monsieur. Hein. Voilà, présentez-vous.
Merci, c'est Elvira Panzou pour la radio-télé La Louange. Moi, je voulais juste savoir pourquoi est-ce que les Nations Unies ont mis du temps pour réagir aussi longtemps que les expulsions de nos compatriotes ont débuté, si je ne me trompe pas, depuis le 4 avril dernier. Et puis, bientôt, c'est pratiquement 2 mois.
Les Nations Unies ont mis du temps pour réagir, c'est peut-être votre impression, mais il se trouve que si vous regardez une fois de plus de très près le mandat de la MONUSCO, elle se cantonne et se limite à la RDC. Cependant, les agences des Nations Unies ont réagi tout de suite, et je crois que ici, les représentants de l'équipe pays peuvent le dire, IOM, le HCR, le OCHA, peut-être ont travaillé dans l'ombre, mais ont abattu un travail énorme dans le secours aux déplacés dans les différents camps de transit, et ici à Kinshasa, au stade Maloula, et au camp de transit à Maluku. Sylvestre, vous voulez ajouter un mot, peut-être pour les différentes opérations humanitaires dans ce volet?
Juste pour confirmer ce que vous venez de dire, ça. Il y a des... Disons, les opérations ont commencé effectivement à la date que vous donnez, mais ce n'est qu'à partir du 23 avril que ces expulsions ont pris une grosse ampleur, et depuis l'arrivée de ces personnes expulsées au niveau du stade Cardinal Maloula, leur transfert au centre de transit, le centre de la police de Maluku, et ainsi que dans l'acheminement vers les provinces d'origine, les Nations Unies à travers les agences, comme a dit Charles, l'UNICEF, le Fonds de Nations Unies en matière de population, l'Organisation internationale des migrations, l'OMS, et peut-être que j'en oublie l'un ou l'autre, ont été, le HCR, voilà, merci, ont été dès les premiers jours sur le terrain. Et si aujourd'hui les voix s'élèvent, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'allégations faisant allusion aux conditions d'expulsion, il fallait documenter les cas, avoir la certitude de ces violations avant de pouvoir élever la voix et condamner, parce que on ne va pas faire des déclarations seulement sur base des rumeurs et des allégations qui sont faites. Et ça me permet peut-être aussi de répondre au premier intervenant qui avait posé la question, disant que les expulsions se font dans les normes. Il faut faire plus qu'entendre les déclarations officielles. Vous pouvez vous rendre sur le site, parler avec les personnes qui ont été expulsées. Vous aurez des témoignages, vous avez un sens critique et vous pouvez tirer vous-même votre conclusion au lieu d'attendre les déclarations officielles.
Une question, bon, là, et ensuite on va revenir avant d'aller à Goma. Hein.
Oui, monsieur Alain, oui, Kani pour CCTV. Mon major, c'est au mois de février que Kobler s'est rendu au Katanga, plus précisément à Poueto, et il constate que la situation était tellement grave qu'il fallait déployer. pendant combien de jours on a mené l'opération de dire aujourd'hui que la situation est stable, et, mais aussi je profite à Moudinga, ce sont les humanitaires qui ont parlé des triangles de la mort, donc c'était suite à un événement ou de la situation sur le terrain. Vous êtes rassuré par le fait qu'on a demandé que les militaires quittent, disant que la situation est très calme. Est-ce que vous travaillez dans des conditions calmes aujourd'hui à Pweto, à Kizabi, dans tous ces coins-là, où Kobler lui-même avait qualifié de très grave la situation à l'époque, au mois de février? Merci.
Bon, pour répondre rapidement, parce que demander le nombre de jours et quelle est la situation, le constat est là que la situation à Pweto n'est pas la situation qu'elle était en février. Le déploiement des forces égyptiennes, en collaboration avec le renforcement des forces des FARDC dans la zone, a permis de baisser les exactions qui étaient commises. Et le déploiement des forces égyptiennes répondait à un besoin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et lorsque le besoin a été stoppé, et lorsque le problème s'est déplacé de Pweto en direction du sud de Manono, il était important pour les forces de la MONUSCO de replier les éléments et de revoir de façon globale un redéploiement qui est en train d'être fait. C'est ce que je peux vous dire.
Oui, il faut dire que les forces égyptiennes n'ont pas disparu complètement de l'horizon. Ils font partie d'un ensemble de mouvements, j'allais dire, de réorganisation stratégique pour couvrir un certain nombre de zones, de territoires dans la région. Et vous savez, comme il l'a dit, nous avons déjà un contingent béninois au Katanga. Il fallait donc regrouper les forces pour essayer de mieux s'organiser, de couvrir toujours cette même zone, pour rassurer un peu les populations de la zone. Et vous savez qu'en début février, justement, des centaines de maisons étaient brûlées, presque chaque semaine. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que la présence de ces forces-là et d'autres forces, les FRD sont sur le terrain. Cela a permis de dissuader dans une certaine mesure. On a vu un recul, j'allais dire, en décrescendo de la tension militaire dans la zone. Mais c'est vrai que tout n'est pas fini. Nous continuerons à être présents là et nous continuerons à appuyer les différentes actions menées par les FRDC sur le terrain.
Juste pour compléter, la nature de ce qui se passe dans ce qu'on a appelé le triangle de la mort, Manono Pweto Mitwaba, est telle que, comme le dit le porte-parole militaire et le porte-parole de la MONUSCO, est que telle que le mouvement glisse, à tel point qu'aujourd'hui on a du mal à parler du triangle de la mort, parce que même Moba, même Malembankoulou sont touchés, donc on se retrouve dans une sorte de polygone qui fait que quand on déploie les forces dans une zone donnée, les groupes armés reculent, se déplacent et commettent des exactions peut-être ailleurs que là où initialement on avait ciblé et où les forces sont intervenues. C'est peut-être ça qui explique que le porte-parole militaire vous dit qu'on réenvisage, n'est-ce pas, de voir, parce que le mouvement est en train de bouger. Malembankoulou a été longtemps épargné, mais aujourd'hui Malembankoulou est touché, ce qui fait que il reste quand même quelques préoccupations, même si du côté de Pweto Moba, ce n'est plus aussi intense que dans les premiers mois de l'année.
Direction Goma. Goma, avant de revenir à Kinshasa, on va prendre trois questions à Goma.
Cosma. Je suis Cosmas Mongas de Sifia Grand Lac. J'ai une question humanitaire qui s'adresse effectivement à M. Modeste Motingaï. La question est celle de savoir pourquoi les organisations humanitaires développent-elles le vocabulaire des personnes très vulnérables pendant la distribution au détriment des personnes vulnérables. Ne craignez-vous pas que cette discrimination peut créer des conflits, d'autant plus que ces deux groupes de gens vivent dans le même camp?
Je n'ai pas bien saisi la question. Si la question c'est de savoir pourquoi on catégorise en disant on privilégie les très vulnérables par rapport aux vulnérables. Alors si c'est ça la question, oui, si c'est ça la question, je dois vous dire que étant donné les moyens financiers limités dont dispose la communauté humanitaire pour répondre aux situations des crises, nous sommes malheureusement dans l'obligation de faire une échelle, d'établir des priorités. Et ce n'est pas parce qu'on hiérarchise ses besoins, ce n'est pas parce qu'on établit des priorités que les autres personnes ne sont pas importantes ou ne sont pas dans le besoin d'assistance. C'est ça qui explique que continuellement, on est en train de mener des plaidoyers auprès des différents bailleurs de fonds pour avoir des moyens financiers additionnels pour pouvoir effectivement intervenir pour tout le monde. Mais quand on a une cagnotte limitée, les moyens sont limités, on ne peut que faire malheureusement cette hiérarchie-là.
Deuxième question à Goma.
Les FDLR veulent se rendre. Pourquoi ils ne veulent pas se rendre à la MONUSCO? Ma deuxième question. Certains officiels tanzaniens ont dit que les éléments du M23 sont originaires du Rwanda. Vous attaquez MONUSCO. Avez-vous fait des investigations pour savoir les vraies origines? La Tanzanie a dit, s'il n'y a pas de solution, il pourra envoyer d'autres militaires, 15 000, pour renforcer les militaires qui sont au Congo.
Bon, les FDLR veulent se rendre, ils ne veulent pas se rendre à la MONUSCO, mais il faut leur poser la question, hein, pourquoi ils ne veulent pas se rendre à la MONUSCO? Ce que l'on peut dire sur cette question, c'est que nous avons effectivement appris que les FDLR voudraient se rendre, et nous allons, dans le cadre de cette opération, apporter tout notre soutien au gouvernement pour l'accompagner, effectivement, si cela se confirme et si cela a lieu, et nous souhaitons que cela ait lieu, car vous savez que dans le mandat qui nous a été donné dans la résolution une fois de plus 2146, il est dit très clairement que nous devons mobiliser l'ensemble des groupes armés présents en République démocratique du Congo, et en particulier les FDLR, et nous avons lancé plusieurs fois des ultimatums à ce groupe armé. S'ils veulent se rendre, tant mieux. Nous allons apporter notre soutien technique au gouvernement pour que cela se fasse dans les normes. Et nous souhaitons d'ailleurs que si cela se fait, que cela inclut les chefs militaires des FDLR et que l'ensemble de ces troupes des FDLR puissent se rendre dans les différents camps DDR, etc., etc. Nous allons constater et puis appuyer le gouvernement dans cette opération de démobilisation, de désarmement et éventuellement de réintégration. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ce dossier. Nous souhaitons en tout cas que cela se fasse et que l'ensemble des troupes FDLR, y compris les chefs militaires, se rendent. Et nous allons nous apporter le soutien qu'il faut pour que cette opération se passe bien. Merci. Peut-être que nous allons prendre une dernière question à Goma avant de revenir à Kinshasa.
C'est Okito Papi du journal Écho d'Opinion. La question, je la pose à M. Ndinaï Sibel. En fait, le PAM a annoncé la fermeture de tous ses bureaux presque un peu partout en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a, vous pouvez nous dire au moins, qu'est-ce qui va rester et qui va assumer, par exemple, la prise en charge des déplacés qui sont dans les camps ici au nord Kivu? Mais plusieurs ONG sont peut-être en cours d'argent, notamment l'ACR, que nous avons vu même vendre ses ordinateurs et des frigos pour venir en aide aux demandeurs d'asile. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si tous les ONG vont partir et quel est leur état de santé actuellement?
Vous dressez un tableau de santé de toutes les ONG, je ne saurais pas le faire. Mais ce que vous devez savoir est que la République démocratique du Congo n'est pas la seule crise à travers le monde actuellement. Il y a d'autres crises et généralement ce sont les mêmes bailleurs de fonds qui interviennent sur différents fonds et parfois leur cagnotte est limitée et ils affectent les fonds selon les priorités qu'ils se définissent. Alors, il y a parfois des partenaires qui se retrouvent à court de financement et qui ne peuvent plus continuer leur action, pas parce que le besoin ne se fait plus sentir, mais parce que tout simplement ils sont limités. Concernant le HCR qui vendrait du matériel, je me permets de mettre quelques réserves là-dessus, mais vous pouvez toutefois vous rapprocher des collègues du HCR. Je ne suis pas sûr que l'information soit exacte. Alors concernant le PAM, puisque nous avons le chargé de communication du PAM dans la salle, si Charles permet, Claude Kalinga, qui est là, va répondre à la question concernant la fermeture des bureaux du PAM.
Claude, en une minute, parce qu'on est bientôt à la fin.
La question vient de Goma. J'aurais aimé que notre collègue, notre ami qui est là, puisse s'approcher de Goma, du PAM Goma, pour d'autres informations. Mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. Le PAM, en RDC, avait 14 bureaux. Mais suite aux difficultés financières et à la priorisation de nos activités, on a dû fermer 6 bureaux. Donc les autres bureaux sont encore opérationnels. Goma, dans le Nord Kivu, on avait Goma et Beni. Mais Beni est fermé. Il sera fermé au 30 juin. Mais pour tous les Nord Kivu, donc les opérations vont partir de notre bureau de Goma. Donc voilà.
Merci. Nous allons revenir pour prendre une dernière ou deux dernières questions à Kinshasa. Ici une question et puis là aussi. Hein.
Merci. Merci pour la parole. Monsieur le porte-parole, nous avons assisté la semaine passée aux journées portes ouvertes de la CENI. Beaucoup de zones d'ombre sont palpables, dont on n'entend pas élaguer maintenant. N'est-ce pas chercher une accréditation populaire ou internationale en associant la MONUSCO à cet effet? Sinon, quel est le rôle exact ou réel qu'on a donné à la MONUSCO dans la CENI? Merci beaucoup.
Le rôle exact donné par la CENI, non. La MONUSCO a son mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous n'attendons pas que la CENI nous donne un rôle. Nous avons déjà un rôle qui est clair, accompagner le processus électoral en RDC par un appui logistique, un appui technique et un appui de bons offices. Et c'est cela que nous avons enclenché et c'est pour cela que nous avons dit dans la conférence de presse de la semaine dernière que nous avons même établi un bureau MONUSCO au sein de la CENI pour nous rendre compte un peu des difficultés, pour nous rendre compte de l'avancée réelle de la situation sur le terrain et en vue d'appuyer pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Et donc notre mandat n'est pas donné par la MONUSCO, mais c'est clairement donné donc par le Conseil de sécurité à New York.